Musique du Monde. Laurence Alloa. Musique du Monde sur RFI.
Et c'est du côté de Montréal que Musique du Monde va se poser, avec Ariane Moffat, originaire de Québec, et Pierre Quenders de Kinshasa. Comme quoi, Montréal reste un joli carrefour culturel et il y a de la place pour tout le monde. Ariane est un nom connu et reconnu au Canada, 20 ans de carrière, prof à la Star Academy et à The Voice, mais c'est pour Incarnat, son 7e album, que nous recevons la musicienne francophone. Pierre Quenders, Ariane Moffat, au parloir, bonsoir. Le titre qu'on vient d'écouter s'appelle Beauté, c'est extrait du 7e album d'Ariane Moffat, l'album s'appelle Incarnat. Ariane, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va super bien, merci.
Vous savez combien de temps vous n'étiez pas venue en France?
Ah, ça fait carrément plus de 6 ans, depuis 2015, mon dernier concert ici.
Et là, vous avez joué au Café de la Danse il y a quelques jours, à Paris, ça vous a fait du bien de renouer avec le public, même pas français, juste le public.
Ah oui, complètement, c'est vrai que je faisais la blague que je devais venir en France pour pouvoir jouer, parce que chez nous au Québec, on vient à peine de rouvrir les salles. La 5e vague de la pandémie, ça a été plus serré. Donc oui, un pèlerinage vraiment, littéralement pour moi, à Paris. Tant de souvenirs, tant de monde à retrouver, un noyau de fans irréductibles qui m'ont attendu et tous ces gens sur mon parcours depuis 15 à 20 ans qui m'ont accompagné à différents moments. Alors c'était très chargé, très émouvant.
Vous avez vécu à Paris quelques mois du côté d'Arts et Métiers, donc pèlerinage. Est-ce que vous êtes passé devant là où vous avez habité avant?
Oui, je suis allée au marché des enfants rouges, j'allais bouquiner dans le coin. Fait que c'est ça, quand je dis pèlerinage, c'est exactement, c'est de tourner un coin de rue puis de se rappeler à tel endroit où j'ai habité, quand je faisais tel concert, avec tel album. C'est agréable de renouer avec cette ville tellement associée au début de ma carrière. Surtout.
Est-ce que vous trouvez que Paris a changé? Est-ce que vous avez eu le temps de vous promener un peu? Parce que là, vous êtes là en promo, donc
oui.
Télé, radio... Presse.
Exactement. J'ai trouvé quelques changements. C'est sûr que là, on est dans une période un petit peu plus calme. Hein. C'est les vacances cette semaine, mais un petit peu plus relax, hein, moins speed un peu. Mais surtout, dans le contenu des entrevues... au niveau de l'émancipation des femmes en musique, de l'autonomie, de la place, une espèce de petit courant un peu plus féministe en musique que j'apprécie. Je trouve que c'est un petit peu plus ouvert et diversifié que ce l'était déjà il y a 6 ans pour moi dans la façon de traiter les femmes en musique.
Donc, vous pensez que le métier a un peu changé? Je rappelle que votre premier album, Aquanaut, est sorti effectivement il y a 20 ans, en 2002, et que vous avez toujours été à la manette. J'entends par là que vous êtes auteur, compositeur, interprète, et puis vous arrêtez pas là. Vous dites, eh oh, pour la réalisation, les arrangements, j'aimerais bien mettre mon nez. Donc, vous faites partie de ces femmes qui surveillent tout le processus d'un album, réalisatrice, co-réalisatrice, ça c'est important. C'est ça que vous avez vu aussi en France?
Oui, qu'on reconnaît plus les auteurs-compositeurs qui sont femmes. Des fois, on disait avant qu'on associait la femme juste à une interprète, les femmes musiciennes, productrices. Donc, j'en ai rencontré plus et j'ai vu qu'on était ailleurs dans l'espace public par rapport à ces femmes artistes-là.
Oui, ça s'est organisé, madame. Puis MeToo est passé par là.
Oui,
je suis passée... Si, si, on a des MeToo musiques.
Ça progresse.
Aussi. Ça progresse. Le premier titre qu'on a écouté, Beauté, qui ouvre ce 7e album, Incarnat. Beauté, ça parle du processus de création. Parce que je rappelle que ce disque, vous l'avez sorti juste avant la pandémie. Donc, c'est bien pour sortir un album. Vous avez bien dû vous marrer. Mm-hmm. Ce disque a plusieurs vies. Parce que Beauté, processus de création.
Effectivement, c'est une des premières chansons. Elle ouvre l'album, mais c'est une première chanson écrite parce que je voulais souligner ce geste-là de répétition. Bon, moi, je vais à mon studio tous les jours à chercher quelque chose que j'ignore, à essayer de creuser à l'intérieur de moi pour trouver la beauté, pour trouver des chansons. Et donc, c'était comme une tape sur l'épaule de tous les artistes, tous les créateurs qui se donnent comme mission. C'est comme un parcours, un paysage des créateurs. Et ça a inspiré d'autres chansons ensuite, comme si j'avais nommé ça et ça avait un petit peu parti le bal.
Je vous propose d'écouter un autre titre qui fait partie de cet album. Alors, c'est une reprise des Corgis. Corgis, c'est un groupe anglais qui a fait un tube dans les années 80 qui s'appelle...
Everybody's gotta learn sometime.
Oui, mais vous n'avez pas choisi cette version-là pour faire la vôtre. C'est celle de Beck qui vous a plus inspirée.
Oui, parce qu'elle était dans la BO du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey, un film des années 90 qui m'avait vraiment marqué. Alors, pour moi, cette chanson-là est devenue une chanson phare dans ma vie. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une adaptation libre en français. Et donc, j'ai pensé que ça ferait un beau duo. J'ai appelé Lou Doyon à distance. On a fait cette collaboration. Et ça a été vraiment une belle rencontre, un bel échange. Puis je suis très contente de la version que ça a donnée.
Ouvre ton cœur. Regarde
Dans les années 80, vous n'étiez pas née.
Ben, je suis née en 79, mais non, j'écoutais pas The Corgis.
Dites-moi, en parlant d'enfants, est-ce que c'est pour cette raison aussi que pendant plusieurs années, on ne vous a pas vu à Paris? Parce que j'ai appris en relisant des choses sur vous que vous êtes maman, vous avez trois garçons.
Oui, je suis maman de trois fils, des jumeaux de 8 ans et demi maintenant, puis un petit de 4 et demi. Mais complètement, l'arrivée des enfants m'a obligée à concentrer mes activités plus au Québec. Je suis déjà très occupée. Il y a de la tournée là-bas. J'avais envie d'être là, d'être une maman présente. Et ça devenait compliqué un peu la conciliation en vivant avec quelqu'un qui travaille énormément aussi. Alors, c'est pas parce que je suis une chanteuse pop que je peux me permettre de partir toujours. J'ai essayé d'être présente. Puis là, ils vieillissent un petit peu. Alors, ça me permet de revenir. Puis il y a eu un petit 2 ans de pandémie entre les deux.
Et donc, vous avez fait du homeschooling, l'école à la maison?
Oh, oui.
Vous êtes prof de toute manière à l'académie.
prof de création, mais c'est pas pareil avec des petits qui doivent travailler à la maison. Mais oui, c'est, étant donné que je suis plus travailleur autonome, ben, c'est moi qui ai pris plus à charge les enfants pendant certains moments. Ça a été une expérience avec ses hauts et ses bas. Des grands moments d'ivresse, de liberté. On avait la chance d'être plus à la campagne, mais en même temps, beaucoup de charges. Puis on sort de ça quand même assez fatigué. Quand on désire aussi rester actif dans son métier, ça faisait beaucoup de chapeaux.
Ariane Moffat, il est courant que les artistes, lorsqu'ils deviennent père ou mère, voient leur vie totalement transformée, puis aussi leur façon d'écrire ou de composer. Combien d'artistes sont mis à chanter leur fils, leur fille, puisque c'était l'événement de leur vie. Est-ce que sur cet album, Incarna, il y a une chanson qui leur est dédiée, ou c'est le titre à la fin où on entend des mômes dans une espèce de... J'avais lu dans le Devoir, journal canadien, que c'était un gospel païen. Est-ce que vous avez mis les petits dedans? Vous faites travailler vos enfants? Ils sont mineurs.
J'essaie d'avoir une petite trace, une petite patte d'eux depuis que je suis mère à travers chacun de mes projets. J'ai eu un album précédent qui s'appelle 22h22, justement, quand les jumeaux sont nés. Alors, l'idée de la paire et l'idée de, à cette heure-là du soir, c'était mon seul moment pour filer un peu dans mon univers de création. Alors, pour certains artistes, le fait de devenir parent, ça devient un blocage. J'arrête tout, mais moi, ça a été une façon de structurer aussi mes plages de création, d'avoir une espèce un ordre un petit peu plus calé là, pour être organisé. Puis ça m'a été bénéfique. J'ai été plus prolifique après les enfants. Puis je pense qu'aussi, ça devient notre monde de création devient un échappatoire, une zone où on peut se retrouver, reprendre contact avec soi, parce que quand on est mère, on peut vraiment se disperser au service des enfants. Tout ça, finalement, ça a été assez positif.
Je vous propose d'écouter Incarna, le titre qui a donné son nom à votre 7e album, Ariane Moffat.
J'ai logé toute ma confiance avec mes failles. Dans ta chair pêche et vermeille, j'ai allongé mon destin. À côté du tien. Sur tes joues écarlates, mon printemps en décembre, les larmes délicates, étanchent ma soif immense. C'était la chose à faire.
Incarna, septième album d'Ariane Moffat qui nous vient. Vous êtes de Montréal?
Je suis née à Québec.
Québec,
donc,
voilà.
2h30 de Montréal, dans la rive sud de Québec. Puis à partir de 10 ans, j'étais en banlieue de Montréal.
Et vous êtes toujours en banlieue de Montréal?
Là, je suis vraiment en ville, à Montréal, dans
d'accord.
Le Mile End.
C'est le Saint-Germain-des-Prés, quoi.
je sais pas. Ouais, le Brooklyn, c'est pas si huppé, hein. C'est assez diversifié, mais c'est un quartier d'artistes.
Quelle est l'odeur? Quelle est l'image? Quel est le son de Montréal aujourd'hui?
Qu'est-ce que ça sent? Ça sent un peu la privation de notre culture pendant trop longtemps. Tout a fermé beaucoup plus qu'ici, hein. Ça a été plus sévère au niveau des mesures. Puis les artistes se sont sentis quand même assez brimés, assez un peu ignorés, dans le sens où, oui, il fallait fermer pour des raisons sanitaires, mais à un certain moment, manquait de communication avec nos politiques. Comment on envisage la réouverture? Comment on traite la culture dans notre société? Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont été un petit peu... sont sentis un petit peu mis de côté. C'est ça qu'on a vécu. Puis sinon, ben là, ça commence à ressentir l'idée de reprendre, tu sais, le printemps qui arrive, un soulagement, parce que quand même, ça a été lourd. Surtout la cinquième vague. Moi, j'étais en plein milieu d'Incarna, la tournée en solo, qui roulait rondement. Et j'ai trouvé ça quand même dur qu'on referme comme ça après 2 ans, là.
Et puis j'ai appris aussi qu'il y a un album qui allait sortir. C'est un best-of, mais c'est pas vous qui le faites. Ce sont d'autres artistes qui vont chanter vos chansons. Vous en savez un petit peu plus? C'est qui
oui.
va chanter?
Quand même, j'ai tout décidé ça moi-même. Mais oui, pour les 20 ans d'Aquanaut, je me suis dit, je pourrais me célébrer moi-même avec mes chansons, mais pourquoi pas apporter un regard sur la nouvelle génération, donc ceux et celles qui ont l'âge que j'avais quand j'ai écrit l'album. Alors, je suis allée puiser, il y a tellement de belles musiques de beaux créateurs nouveaux au Québec. Je suis allée me faire une petite sélection qui forme le bouquet de ces reprises, une forme de mixtape avec des interludes où on entend ma voix en 2002, parce qu'il s'agit bien de 2002 et ça donne des versions super avec un son finalement qui est assez homogène malgré qu'on n'ait pas tous travaillé ensemble. Moi, je me suis impliquée au niveau du choix des artistes puis du mixage, donc au début et à la fin, un peu comme DA du projet. Ça fait un nombre au total de 18 artistes. Petit Béliveau, de toute façon, j'invite les gens à aller découvrir cette nouvelle chanson québécoise parce que c'est très fast.
Tout au long de votre carrière, vous avez quand même défendu à votre manière le mode d'expression français. Je me demandais comment votre carrière fonctionnait au Canada. Je ne parle pas du Québec. Est-ce qu'une chanteuse d'expression française peut pénétrer le marché anglophone? Est-ce que dans le Canada anglophone, on vous écoute? Mm-hmm. Est-ce qu'il est possible pour vous d'organiser une carrière, même une tournée, quoi, mm-hmm. aux États-Unis, hors mm-hmm. Des communautés canadiennes?
C'est possible, oui, mais c'est quand même deux solitudes, le Québec et le reste du Canada. Donc, c'est pas du tout le même milieu. Et effectivement, le fait que je chante en français, je suis allée faire des tournées. J'allais dans les prairies avec mon tour bus jusqu'à l'ouest, jusqu'à Vancouver, mais souvent à travers des réseaux francophones. Puis c'est important aussi d'aller voir ces communautés francophones-là parce qu'il y en a partout au Canada anglais. Il y a des résistants francophones en Alberta, au Manitoba, partout jusque dans l'ouest. J'ai parcouru un peu ça tout au fil de ma carrière. Puis pour les États-Unis, j'ai fait un album bilingue en 2012 qui s'appelait Ma. Et je suis allée à New York, j'allais faire un petit peu de développement, toujours en me disant, je m'attaque pas, je m'en vais pas vivre à Los Angeles en espérant percer les États-Unis. Je suis allée pour écrire, pour des petites sessions de création et tout ça, mais je me suis jamais attaquée au marché américain, non. C'est toujours vraiment agréable d'aller voir ailleurs. À travers toutes les semaines de la francophonie aussi, j'ai toujours essayé de faire, tu sais, je suis allée jouer au Brésil, au Chili, en Roumanie. J'ai fait l'Expo universelle en Chine, où après j'ai voyagé. J'utilise toujours ces moments-là aussi pour voyager, quand on pouvait voyager. Alors oui, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Après, tu sais, au Québec, si on s'intéresse à la production, moi, j'ai fait un peu de la télé, j'ai fait de la tournée, j'écris un peu pour d'autres. Il y a moyen de varier ses activités pour être repu ou sentir qu'on va au bout de soi, qu'on se réalise bien. Donc oui, peut-être au début de ma carrière, j'avais l'ambition de la conquête et tout ça, mais c'est moins quelque chose que j'ai priorisé par la suite. J'ai vécu mes expériences en France, puis je trouve ça vraiment le fun de revenir, mais c'est pas une fin en soi.
Vous êtes une femme d'affaires, en fait.
Ben oui, puis je pense qu'il faut de plus en plus dans une industrie où on n'a plus rien, on fait plus de sous avec les ventes d'albums. Il faut apprendre à garder ce qu'on peut garder.
Donc... Où est-ce que vous faites des sous? Dans l'édition, le concert?
Oh, les radios traditionnelles plus, maintenant.
Les droits d'auteur.
C'est ça, les droits d'auteur, je dirais.
Le streaming?
Parce que... Ben non, c'est rien, c'est rien. Après, ben c'est ça, il y a eu d'autres techniques, des synchros, justement. On varie, on fait comme j'ai été coach sur The Voice. J'ai fait Star Academy comme prof de création. Super agréable, ça, dans la dernière année aussi, d'approcher des jeunes puis d'essayer de les aider aider à trouver leur voix, à créer. Alors voilà, je pense que la polyvalence, c'est la clé dans ce métier, de plus en plus.
Vous avez fait un petit clin d'œil à Arvo Pärt, j'ai vu, sur l'album. Mm-hmm. Ça fait partie des gens que vous écoutez en secret?
Ben, ça fait partie des musiques qui m'apaisent, qui m'ont fait du bien dans les dernières années, de la musique... instrumental, un peu de piano aussi, des artistes comme Nils Fram, Ryushi Sakamoto. C'est des influences sur l'album. J'aime beaucoup ces musiques et je pense qu'on en a besoin dans nos vies, des fois, d'avoir des musiques qui nous permettent de se recentrer, de trouver une forme de calme à l'intérieur de soi. Et après, ben, j'ai décidé que pourquoi pas en chanson, ces climats-là pourraient s'inviter, pourquoi pas une pièce instrumentale improvisée. Alors, sur l'album Incarna, il y a ces plages comme ça qui sont juste instrumentales, en Absolument. Mettant de l'emphase sur le piano texturé, ça peut évoquer une belle proximité aussi pour l'auditeur.
Ce qui est assez rigolo, c'est que vos parents vous ont fait des farces quand vous étiez petite. Enfin, c'est pas une farce. C'est-à-dire que, je sais pas si c'était tous les Noëls ou vos anniversaires, on vous offrait un piano de plus en plus gros.
Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé à
vous
m'intéresser.
En avez combien?
Oh mon Dieu, faudrait voir mon studio. C'est une classe d'école. Et là, je pense qu'on voit plus le tableau, là, tellement les synthés s'empilent. C'est une petite fixation que j'ai. Et ça a commencé très tôt, effectivement, parce que de plus en plus, je voulais pouvoir séquencer, utiliser des échantillonnages. Fait que je voulais des claviers de plus en plus élaborés. Et j'en ai fait une petite collection. Et ça reste à ce jour... une grande préoccupation dans ma vie.
Donc, le prochain cadeau pour vos 250 ans, ce seront les grandes orgues. On ouais, est bien d'accord.
Ou des synthés modulaires. Je suis un peu boulimique de musique. Je suis influencée par toutes les musiques. J'adore les sons hybrides, l'électro, l'acoustique. Mais là, je tenais, avec Incarna, à rester autour du piano, puis à magnifier avec des cordes. Donc, quelque chose de très petit, puis de très plus grand que soi à la fois.
On va terminer avec un titre, je ne vais pas la qualifier de bisounours. Maintenant que vous êtes mère de famille, je comprends que vous ayez des inquiétudes sur l'avenir. Quand on a mon âge, on se dit « après moi le déluge », mais ce n'est pas une bonne idée non plus. Donc, vous évoquez évidemment...
Nature.
Hein? La nature. La nature, et c'est là où on entend des enfants à la fin qui reprennent tout son cœur. Bon, enfin bref. Donc, quel est le genre de terre que vous pensez pouvoir léguer à vos enfants? Quelles sont vos armes à vous? Comment pouvez-vous aider à faire en sorte que le futur soit possible?
Ben, je sais pas, je pense que on est très petit, on peut faire des choses à notre portée, mais c'est surtout de sensibiliser mes enfants. Ils sont dans une époque où ça vient tout seul, ils sont très conscients de l'écologie, des dangers, de l'importance de préserver tout ce qu'on peut préserver. Mais je pense que le meilleur outil que je peux leur transmettre, c'est de pas juste penser à leur nombril. J'essaie de le faire moi-même, puis de développer des réflexes pour penser plus grand que soi, puis être conscient, être lié aux autres, être respectueux. Après, il reste des super espaces de nature chez nous, mais la menace est toujours là. Alors, je leur souhaite d'être conscient puis d'être actif pour leur environnement, mais on dirait qu'ils sont déjà meilleurs que moi. Ils sont déjà dans une génération très, très, très allumée qui vont leur permettre d'être sensibles.
Bon, on se revoit dans 20 ans?
J'espère avant.
Merci Ariane Lafon.
Merci beaucoup.
Toute l'Amazonie et les forêts d'Australie brûlent au fond de moi. Le ciel. Californie.
C'était le titre Nature, il est extrait du 7e album de la Québécoise Ariane Moffat, l'album s'appelle Incarnat. Les coordonnées, les photos, les vidéos de la dame sont sur la page Musique du Monde, sur le musique.rfi.fr, puis il y a du podcast aussi dans l'air si ça vous fait plaisir. On reste outre-Atlantique avec Pierre Quenders sur RFI.
Music du Monde sur RFI.
Pierre Quenders présente son troisième album, José Luis and the Paradox of Love. Pierre, enfin José Luis, est né en 85 à Kinshasa. Il a fait ses études à Montréal et il vit à Montréal. Ce touche-à-tout organise les soirées Moonshine, à Montréal toujours. Il se sape comme jamais et en plus, il collectionne l'art contemporain. Pierre Quenders était de passage à Paris. Il a répondu présent. Le Congo Kin est dans la place très cher et Montréal aussi. Quenders, bonjour.
Bonjour, Laurence.
Votre troisième album s'appelle, je ne sais pas si on dit José Luis ou José Luis and the Paradox of Love. En fait, c'est vous, José Luis Modebi, c'est votre vrai nom.
Oui.
Donc vous vous mettez à nu sur votre troisième album.
Tout à fait, je suis un peu comme un livre ouvert. Et puis je me laisse à l'interprétation du monde.
Oui, donc je rappelle que vous êtes né à Kinshasa en 85 et que vous êtes parti ensuite au Canada, enfin à la partie française au Québec, dans la ville de Montréal.
Exact.
Et de mémoire, je crois que vous étiez dans la comptabilité.
Si, j'ai fait mes études en comptabilité. J'ai même travaillé un peu aussi en comptabilité. Après, j'ai fait quelques années dans les impôts. Et
ça motive hein, pour en sortir.
Moi, pas mal.
Alors, Pierre, vous avez lâché votre vrai prénom sur ce troisième album. Et c'est vrai que beaucoup de titres font référence au continent africain et particulièrement à la République démocratique du Congo. Mm-hmm. Ce n'est pas tout à fait un accident si on commence par Church, par une église. Parce que je pense que l'église est le plus grand producteur de musique en République démocratique du Congo.
Définitivement, il n'y a pas un artiste qui n'a pas chanté en chorale. J'en connais pas en tout cas. La plupart, ils ont chanté soit dans une chorale ou d'une manière ou d'une autre à l'église. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé mon parcours quand je suis arrivé à Montréal, mon parcours avec la musique, quoi. J'ai été invité à prendre partie à cette chorale de jeunes à l'église catholique congolaise de Montréal. Et c'est parti de là.
Alors, Montréal connaissait quand même un petit peu le continent africain. Je dis bien un petit peu parce que pour connaître un continent, des pays, c'est bien de lire et d'écouter, mais c'est bien de s'y rendre, de sentir, de toucher, enfin bref, de vivre la vie sur place. Il y avait déjà Lamine Touré qui, lui, était un danseur et chorégraphe des ballets de Guinée qui était arrivé dans les années 70 à Montréal. Il avait eu son café créole, puis après il a mis le balatou. Mais enfin, c'était surtout la personne qu'on appelait quand on arrivait à Montréal et
quand on est arrivé du continent, on se disait, où est Lamine Touré? C'est lui qui va pouvoir t'aider.
Il est encore là. Hein.
Bien sûr. Et puis, il a monté ce festival Nuit d'Afrique qui existe depuis plus de 30 ans. Vous, vous avez, avec Hervé Kalongo, qui est votre producteur, vous avez monté les soirées Moonshine. Alors, les soirées Moonshine, c'était, vous allez me dire si c'est toujours d'actualité, c'était le samedi, les samedis de pleine lune.
Oui.
Et là, c'est la méga teuf, on s'enjaille. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que la pandémie est passée par là, donc l'enjaillement. Hein,
l'enjaillement a continué, mais avec la pandémie, on ne pouvait pas faire grand-chose à Montréal. Avec les couvre-feux, les restrictions, du coup, on a décidé de partir et de voyager, de répandre cette bonne nouvelle de l'enjaillement. Et on est allé au Congo, à Kinshasa, on est allé au Portugal, on a fait quelques trucs en Belgique. Mais normalement, tout devrait reprendre, hein. La vie devrait reprendre, donc le samedi après la pleine lune, soyez prêts.
Alors, en avril sortira cet album, oui. José Luis and the Paradox of Love. José Luis, on a compris, c'est votre prénom. Mm-hmm. The Paradox of Love, vous voulez développer?
En fait, la raison pourquoi j'ai choisi ce titre-là, c'est justement pour expliquer toutes mes expériences que j'ai pu vivre avec l'amour. Parce que dans l'amour, il y a autant la passion, il y a la colère, il y a la trahison.
Ça donne pas envie. Hein.
Ça donne pas envie, mais c'est ce qui est paradoxal avec tout ça. Mais on en a tellement besoin. Et c'est ce qui nous fait grandir d'une manière et c'est ce qui fait de nous ce qu'on est. C'est un peu ça que je raconte à travers les chansons de cet album.
Vous êtes un grand amoureux, Pierre Quenders?
Certified Lover Boy, après Drake.
Je veux rien savoir.
Nangali kambo ni nyango na sala. Pardon penza mama limbi sa bozo bana sala. Kobwa kangate, kolemba ngate. Naza nanga bien, mwana malamu très bien. Ki abiso tina suka lelo ekomi ya bapasi okimi olimwe okeyi mosika olobaki na nga okozonga lelo olobaki abiso tina suka lelo ekomi ya bapasi okimi olimwe okeyi mosika olobaki na nga okozonga lelo ke lelo.
Pierre Quenders, il y a beaucoup de titres qui font évidemment référence à l'Afrique, Kilimandjaro,
oui.
Coupé, alors Coupé décalé.
Mm-hmm.
C'était votre dieu, Duxaga?
C'est le Messie, hein?
C'est le Messie, c'est le DJ ivoirien qui a lancé le Coupé décalé. Mais alors, il est parti de Côte d'Ivoire au début du XXIe siècle parce qu'il avait des problèmes politiques. Et il a lancé un peu le Coupé décalé à Paris, puis après il est retourné, il est mort en 2006.
C'était le Messie, hein, il est parti trop vite. C'est rare, hein, quelqu'un qui crée un genre qu'aujourd'hui qui a appris, qui a évolué, qui est devenu tout autre chose, mais de manière très agréable et magnifique. Mais Duxaga, c'est le king de l'enjaillement, c'est le messie, c'est la joie de vivre, c'était la joie de vivre. Et moi, j'essaie un peu de continuer dans cette lignée-là.
Vous avez aussi, rendu hommage à Papa Wemba, parce qu'il y a un titre qui s'appelle Papa Wemba, qui lui aussi a repoussé les limites de la rumba congolaise. Enfin, il en a fait tout à fait autre chose. Est-ce que ce sont sur ces bases-là que vous avez fait votre musique? C'est en pensant à des Papa Wemba ou à des Duxaga?
Ah, définitivement. Définitivement, moi je me rappelle Papa Wemba, même bien avant sa carrière internationale, déjà en le voyant dans le film La vie est belle, je ne sais pas si vous connaissez, tout le monde rêvait d'être Papa Wemba, tout jeune voulait être Papa Wemba, tout le monde voulait chanter comme Papa Wemba. Et après, il a brisé des barrières.
Musicales.
Des barrières musicales, effectivement.
Vestimentaires.
Vestimentaires, n'en parlons même pas.
Vous êtes pas mal non plus dans le genre, hein, Pierre?
Moi, je fais de mon mieux, j'essaie de respecter les règles de la SAP, quoi. C'est toujours dans l'élégance.
Bien sûr. Est-ce que la sapologie a pris à Montréal?
Ben nous, déjà avec Moonshine, on essaie déjà de maintenir cette idéologie-là. Donc avec Moonshine, on fait aussi des vêtements. Donc du coup, ces vêtements-là, on essaie de faire un peu un rappel à tous ces grands-là qui ont marqué un peu la scène vestimentaire africaine. Hein. S'il faut juste parler de la SAP, on parlera juste de la SAP. Mais nous, on réinvente la SAP à la manière 2022.
Wenders, vous avez fabriqué cet album entre Kinshasa, Montréal, la Nouvelle-Orléans, Seattle, même le Chili. Je veux vous appeler international, Pierre Wenders.
C'est beaucoup de voyages. Il y a des chansons qui ont été faites à Lisbonne, à Seattle, aux États-Unis, à New Orleans, aux États-Unis, Montréal, Kinshasa. Même le Chili, hein, même l'Amérique du Sud, il y a le Chili, il y a la chanson Kilimanjaro d'ailleurs,
oui.
Qui a été coproduite par deux artistes du Chili.
D'accord, j'ai vu aussi que votre copain d'Arcade Fire était encore dans le quartier.
Exactement, ouais, Win Butler qui m'a accompagné dans la chanson, la première chanson de l'album Liberté, Égalité, Sagacité, LES. Et pas seulement lui, hein, y a King Britt qui est une légende de la musique électronique basée à Philadelphia. Y a Michael Brun, producteur haïtien qui a bossé avec J Balvin. Donc il y a beaucoup de liens. C'est comme... J'ai l'impression qu'avec cet album, j'ai enfin réussi à créer un peu... en fait, le pont que j'essayais de bâtir entre l'Afrique et tout...
Le continent nord-américain.
Et le continent
où
je vis.
Oui.
Je pense que... Il commence à prendre forme, là.
Un bel Atlantique noir, je trouve. Quel est le style de musique que vous aimeriez creuser? Parce que maintenant, vous êtes riche de tout ça. Mais c'est vrai.
Ce que je n'ai pas encore fait.
Oui.
J'aimerais bien faire un album où je chante
du blues.
Au piano.
Ah.
Un album piano, moi, je chante en lingala. Il y a un album que j'aime bien, je ne me rappelle pas du titre, c'est de Ray Lema.
Oui.
Un album jazz qu'il a fait, qui chante en lingala, swahili, en plusieurs langues congolaises. J'aime beaucoup cet album-là et j'aimerais faire une version à moi un jour.
Vous avez déjà rencontré Ray Lema ?
Je ne l'ai pas rencontré, mais je sais qu'il est venu me voir une fois, j'ai joué à la Fondation Cartier. Mais on m'a dit qu'il était là, mais je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Donc j'aimerais bien un jour le rencontrer s'il m'entend, Kilimanjaro,
Sans se parler, on se connaît. Sans regarder, on s'est touché. Quand tu descends, tout est monté. Si tu t'arrêtes, je partirai. Emmène-moi tout en haut du Kilimanjaro. Voir les neiges éternelles briller toute la nuit. Fly au 8e ciel. Ce soir, tu fais mon Kenya, Kilimanjaro. Petit bac au Kenya, Kilimanjaro. Demain, on inversera, Kilimanjaro. Chérie, 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 chérie
De temps en temps, enfin, République démocratique du Congo. La dernière fois, c'était quand?
C'était là, janvier 2022.
22.
Depuis mon premier retour en 2018, ça fait une ou deux fois par année que j'y retourne maintenant. Ouais. Mais avant ça, ça m'a pris un bon 17 ans avant de remettre les pieds au Congo.
Parce que l'occasion ne s'était pas présentée? Qu'est-ce qui se passait dans votre tête?
Non, je pense que c'est vraiment juste un concours de circonstances. J'étais aux études, après ça, les études, il y avait le travail. Ensuite, le travail, j'avais deux travails, je faisais les impôts et puis je chantais en même temps, les festivals par-ci, par-là, donc je trouvais jamais le temps. Mais à un moment, je me suis dit non, il faut créer le temps parce que si je me donne toujours des excuses, j'ai pas le temps, j'irai jamais. Et puis j'ai fait le saut décembre 2018, je crois, une dizaine de jours comme ça, et puis je me suis dit, bah, chaque année maintenant.
Alors donc, vous avez encore de la famille là-bas, quand ils écoutent votre musique, quelles sont les réactions?
Surprise.
Ils aiment bien. Ils savent pas trop.
Surprise. Ils aiment bien. Il y en a qui aiment bien. Il y en a qui trouvent que c'est très recherché. J'ai déjà
très fouillé.
Ouais. J'ai dit, ta musique est très recherchée. Mais j'apprécie ce genre de commentaires. Effectivement, ma musique est recherchée parce que moi, ce que je fais, c'est d'abord et avant tout, c'est pour mettre de l'avant la culture congolaise. Autant la culture canadienne, mais beaucoup, surtout la culture congolaise, la rumba congolaise, dans toutes ses facettes. Et ça me fait plaisir que les gens réalise que c'est recherché, parce que si on écoute bien, ceux qui comprennent le lingala ou le français ou qui connaissent la musique congolaise, il y a beaucoup de références, des gens qui m'ont inspiré d'avant, que j'aime bien d'une manière ou d'une autre rendre l'appareil à travers ma musique.
Alors à part Papa Wemba, qui sont les artistes du continent ou qui sont les artistes congolais qui vous ont motivé,
Il y en a beaucoup, il y en a encore un qui est vivant, il y a Koffi Olomidé. Il y a nos mamans, Maman Tchalamwana, Maman Billy Abel, d'ailleurs, les deux, que je rends hommage. J'ai repris de chacune d'elles quelques paroles et mélodies qui se retrouvent dans ma chanson Nonono, dans l'album. Donc je tenais, parce que j'avais remarqué que je rendais beaucoup hommage aux grands hommes de la rumba. Et il manquait ces femmes-là qui ont fait vibrer la rumba, qui font encore... Hein. Mamou National, Maman Tchalamwana a une chanson qui s'appelle Malou. Aujourd'hui, c'est comme l'hymne national. Ça joue dans toutes les fêtes, dans tous les mariages, partout. Donc, c'est légendaire. Et puis, c'est important de rendre hommage à ces femmes.
Pierre Quenders, on sait beaucoup de choses sur Pierre Quenders aujourd'hui. On sait qu'il a travaillé aux impôts, qu'il aime les fringues, la vidéo. Mais c'est aussi un collectionneur d'art. Il aime les tableaux. D'ici à ce qu'il ouvre une galerie, ce serait quand, où et comment?
La maison de mon grand-père, le vrai Pierre Quenders à Kinshasa. J'aimerais un jour, si je peux, transformer ça en centre culturel dans lequel j'exposerai... ces œuvres-là de Congolais, et puis mes œuvres aussi, et puis d'autres œuvres d'autres grands artistes congolais. D'ailleurs, on réalise un projet là en ce moment, un projet documentaire qu'on a tourné au Congo qui s'appelle Zaïre Space Programme.
Zaire Space Program.
Space Program, oui. C'est un peu un clin d'œil au Zaire Space Program que Mobutu a eu dans les années 70, là, qui n'a jamais vu le jour. On est allé un peu à la recherche des artistes congolais à Kinshasa et on voulait qu'ils nous expliquent un peu comment, à travers leur art, ils voient l'évolution du Congo ou même comment, à travers leur art, ils expliquent ce qui se passe au Congo. On a un premier extrait, le acte 1, qui est sorti en même temps que notre mixtape SMS for Location volume 4 avec le single Jin 5. Disponible sur YouTube, vous pouvez voir déjà un premier extrait du documentaire. Mais là, on est sur le montage, on aimerait bien le sortir avant la fin de l'année 2022.
Pierre Quenders, comment vous êtes perçu quand vous allez au Congo, à Kinshasa? Parce que j'ai compris que c'était du côté de la capitale que ça se passait pour vous. On vous regarde comme l'Américain, comme le Canadien?
Un peu des fois.
Comme une carte bleue?
Mais je sais quand même passer incognito. Je sais
avec les cheveux que vous avez, la tenue.
Bon, après, avec les cheveux que j'ai, on sait tout de suite que je suis artiste.
Oui.
Mais j'aime quand même rester discret du mieux que je peux.
Ça va être compliqué. Ça n'est pas dans votre nature, Monsieur Quenders. Et à Montréal, alors, on vous regarde comment aujourd'hui?
Oula. Non, mais Montréal, c'est chez moi, c'est la maison, c'est la famille. Je me sens bien quand je suis là et... C'est là où tout a commencé, hein. C'est ce qui a permis qu'aujourd'hui je sois en face de vous et vous parler aujourd'hui.
Est-ce qu'il y aura des dates pour le José Luis and the Paradox of Love, le nouvel et troisième album?
Oui, il y aura des dates, ça sera beaucoup plus pour l'été. L'album sort le 29 avril, j'ai quelques spectacles à faire chez nous, dans le Nord, au Canada. Et par la suite, ça va être l'été, ici en Europe, quelques festivals. On annoncera les dates tranquillement, très bientôt.
Merci Pierre Quenders, comme vous êtes en plein décalage horaire, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je sais pas du
merci
tout.
Merci beaucoup Laurence.
À très vite, merci.
À bientôt.
Tribulations montréalaises prennent fin maintenant, c'était cœur. Toutes les infos sur Pierre Quenders et Ariane Moffat sont sur la page d'accueil de l'émission, sur le musique.rfi.fr et vous pouvez bien sûr réécouter l'émission en podcast. Notez que c'est pas une obligation, mais enfin je vous encourage vivement. Bye. RFI Planète Radio.